avec l'Observatoire sociopolitique diocésain. Aujourd'hui, nous retrouvons Olivier Drapé. Bonjour.
Oui, bonjour Alexandre.
Vous souhaitez aujourd'hui nous parler d'un sujet délicat.
Oui, je voudrais revenir sur une controverse qui fait couler pas mal d'encre dans les milieux catholiques, surtout à la suite de la note de la Congrégation pour la doctrine de la foi du mois de février-mars dernier, rendue publique le 15 mars, qui considère qu'il n'est pas légitime, qu'il n'est pas possible de bénir les unions homosexuelles. Et on doit bien reconnaître qu'il y a une incompréhension assez répandue dans les milieux catholiques ou dans certains milieux concernant cette prise de position de la Congrégation pour la doctrine de la foi, si bien que je vais essayer de revenir sur un petit peu sur cette question en m'appuyant d'abord sur un rappel qui est finalement la l'enseignement de l'Église sur cette question très délicate, en effet, puisque beaucoup de personnes peuvent se sentir mises en cause ou blessées de l'homosexualité. On doit s'appuyer d'abord sur le catéchisme de l'Église catholique. Il y a deux ou trois paragraphes importants dans le catéchisme qui méritent d'être rappelés, qui ne font pas d'ailleurs non plus l'unanimité, qui sont parfois critiqués, mais qui sont en tout cas le magistère de l'Église. Donc je pense en particulier au paragraphe 2357, dont je rappelle un extrait important, s'appuyant sur la Sainte Écriture, qui les présente comme des dépravations graves, la tradition a toujours déclaré que les actes d'homosexualité sont intrinsèquement désordonnés, ils sont contraires à la loi naturelle, ils ferment l'acte sexuel au don de la vie, ils ne procèdent pas d'une complémentarité affective et sexuelle véritable, ils ne sauraient recevoir d'approbation en aucun cas. Ça c'est donc, j'allais dire, le rappel du principe qui, bien entendu, est exprimé dans toute sa sévérité, d'une certaine manière. Et puis, il y a un autre paragraphe, dont je cite un petit extrait, nous y reviendrons, qui concerne davantage le respect et l'accueil des personnes en tant que telles. C'est le paragraphe suivant, 2358. Un nombre non négligeable d'hommes et de femmes présentent des tendances homosexuelles foncières. Cette propension objectivement désordonnée constitue pour la plupart d'entre eux une épreuve. Ils ne choisissent pas leurs conditions homosexuelles. Ils doivent être accueillis avec respect, compassion et délicatesse. On évitera à leur égard toute marque de discrimination injuste. Bon, c'est un extrait simplement, le paragraphe est un peu plus important. Mais c'est ce qui permet de mieux comprendre finalement aussi cette note qui n'est pas, j'allais dire, issue simplement d'un caprice de la part des membres de la Congrégation pour la doctrine de la foi, je veux dire la fameuse réponse à la question qui avait été posée à cette congrégation qui répond à la question « L'Église dispose-t-elle du pouvoir de bénir des unions de personnes de même sexe ?» Réponse « Non ». Alors bien entendu, il y a quand même une note explicative. D'abord un constat que tout le monde partage, vu les controverses actuelles. Dans certains milieux ecclésiaux, est-il écrit, se diffusent aujourd'hui des projets et des propositions de bénédiction pour les unions entre personnes de même sexe. Et un peu plus loin, il est écrit « Pour être cohérent avec la nature des sacramentaux, lorsqu'une bénédiction est invoquée sur certaines relations humaines, il est nécessaire que ce qui est béni soit objectivement et positivement ordonné à recevoir et à exprimer la grâce en fonction des desseins de Dieu inscrits dans la création et pleinement révélés par le Christ Seigneur. » Seules les réalités qui sont en elles-mêmes ordonnées à servir ces plans sont donc compatibles avec l'essence de la bénédiction donnée par l'Église. Pour cette raison, il n'est pas licite de donner une bénédiction aux relations ou partenariats même stables, écrit la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui implique une pratique sexuelle hors mariage. c'est-à-dire hors de l'union indissoluble d'un homme et d'une femme ouverte en soi à la transmission de la vie, comme c'est le cas des unions entre personnes de même sexe. Donc il y a effectivement cette première approche qui concerne d'une manière plus générale et au-delà de l'homosexualité, la pratique sexuelle hors mariage. On connaît la position de l'Église sur le sujet, elle n'est pas considérée comme licite. Par contre, cette note précise quand même, comme le fait le catéchisme, dans le paragraphe que nous avons rappelé, je cite, « La communauté chrétienne et les pasteurs sont appelés à accueillir avec respect et délicatesse les personnes à tendance homosexuelle et sauront trouver les moyens les plus appropriés, en accord avec l'enseignement de l'Église, pour leur annoncer la plénitude de l'Évangile. » Une précision d'ailleurs intéressante dans cette note, la réponse à la proposition, à la question qui a été posée, n'exclut pas l'octroi de bénédictions individuelles aux personnes de tendance homosexuelle qui manifestent le désir de vivre en fidélité au dessein révélé de Dieu, comme le propose l'enseignement de l'Église, mais elle déclare illicite toute forme de bénédiction qui tente à reconnaître leurs unions. Dans ce cas, en effet, la bénédiction manifesterait l'intention d'approuver un choix et une pratique de vie qui ne peuvent être reconnus comme étant objectivement ordonnés au dessein révélé de Dieu. Ce qui signifie effectivement, là c'est mon commentaire personnel, qu'il n'est pas bien entendu exclu, bien au contraire, de pouvoir proposer une bénédiction individuelle à des personnes, quelle que soit leur orientation sexuelle, bien entendu, mais il s'agit de bénir des personnes en tant que telles, et non pas de bénir l'union homosexuelle qui, elle, est considérée comme illicite, comme illégitime ou comme pécamineuse, depuis toujours, dans l'enseignement de l'Église, et c'est ce que conclut aussi cette note de la Congrégation pour la doctrine de la foi, l'Église ne dispose pas ni ne peut disposer du pouvoir de bénir les unions de personnes de même sexe. Et là, ça me paraît effectivement intéressant d'insister sur ce point, qui est que il n'y a pas là, en quelque sorte, matière à option théologique, comme on l'a parfois entendu dire. Il ne s'agit pas d'une opinion ou d'une option théologique parmi d'autres qui serait légitime, mais du rappel d'un enseignement constant de l'Église dont le fondement est l'Écriture sainte. Dont le fondement est l'Écriture sainte, on n'a pas besoin de rappeler ici les épîtres de saint Paul, par exemple, sans même aller jusqu'à l'Ancien Testament, ni même l'enseignement constant des pères de l'Église depuis l'origine sur cette question. Et peut-être convient-il justement de préciser tout de même que ce problème n'est pas, j'allais dire, une matière à option ou une option théologique. Elle repose vraiment sur ce qu'on pourrait appeler un fondement anthropologique, finalement, qui est celui du récit de la création de l'homme et de la femme dans le livre de la Genèse. Homme et femme, il les créa, si vous voulez. Il y a effectivement dans le dessein de Dieu cette altérité et cette complémentarité entre l'homme et la femme, et qu'on retrouve aussi d'une certaine manière dans le récit de l'Évangile. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, les deux ne formeront plus qu'une seule chair. Voilà, avec l'union indissoluble en quelque sorte du corps et de l'âme qui sont tout à fait fondamentaux. Donc il s'agit d'un enseignement fondamental et non pas d'une opinion théologique qui, contrairement à ce que beaucoup de catholiques, de prêtres et même certains évêques ou théologiens ont pu déclarer ou imaginer, ça n'est pas une question qui peut faire l'objet, semble-t-il, d'une évolution à l'avenir. En définitive, on constate effectivement qu'il y a une incompréhension de plus en plus forte sur cet enseignement de l'Église qui va à contre-courant de la mentalité du monde moderne, bien entendu, à contre-courant aussi d'une certaine pression médiatique qu'on peut subir, à contre-courant de l'influence et de l'action ou du militantisme d'un certain nombre de lobbies qui essaient de culpabiliser les catholiques ou l'Église lorsqu'ils rappellent cet enseignement en les désignant comme homophobes. Je crois que on y voit en quelque sorte la confirmation de ce que saint Paul pouvait déclarer dans sa deuxième lettre à Timothée. Je cite Saint Paul dans cette lettre, « Un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Et on a le sentiment très clair que le simple fait de rappeler une vérité fondamentale en ce qui concerne cette complémentarité entre l'homme et la femme dans le plan, dans le dessein de Dieu, aujourd'hui n'est pas compris. D'où sans doute la nécessité d'ailleurs de revenir et d'étudier ce qu'on appelle, ce que Saint Jean-Paul II a appelé la théologie du corps et qui éclaire de façon lumineuse ces questions si délicates.
Merci beaucoup Olivier Drapet pour tous ces éclairages et à très bientôt. Pour entrer en contact avec l'Observatoire sociopolitique du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron, 05 59 59 67 92. Thank you.